Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, bienvenue à l'écoute de cette édition matinale du 6 mai 2014 en direct du studio 13 de La Voix de l'Amérique à Washington. Avec vous Nathalie Barge en compagnie de Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Nathalie, bonjour à tous.
Jour J-1 en Afrique du Sud pour les élections générales où l'ANC n'a plus qu'à attendre la victoire qui assurera celle de Jacob Zuma. République démocratique du Congo, seulement 3 condamnés pour viol sur 39 soldats accusés dans l'affaire des viols de masse de 2012 à Minova.
Par rapport au verdict, nous nous trouvons ici du fait que les officiers ont été épargnés des sanctions et ce sont les petits frères qui ont subi la rigueur de la loi.
Omar Kavota de la Société civile du Nord Kivu. Alerte de l'OMS sur la propagation de la polio. À l'approche des élections de 2015 au Burkina Faso, la presse s'interroge sur son rôle en période dite d'effervescence politique.
Nous voulons amener les journalistes à être très vigilants pour éviter la manipulation parce que dans ce contexte-là d'effervescence politique, les journalistes font l'objet d'une cour assidue.
Jean-Claude Méda, président de l'Association des journalistes burkinabés. Nous aurons en fin d'édition les sports et la page musicale, mais commençons par un bulletin d'actualité.
Au Nigeria, les islamistes de Boko Haram ont mis à sac hier la ville de Gamboru Ngala, près de la frontière avec le Cameroun. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Des habitants de Gamboru Ngala rapportent que les militants ont déferlé hier sur la ville, à bord de véhicules blindés, tirant sur tout ce qui bougeait et faisant de nombreux morts. Selon un témoin joint par l'AFP, ils ont brûlé le marché, le bureau des douanes, le commissariat de police et presque tous les magasins. Boko Haram a pris contrôle de la ville, contraignant de nombreux habitants à chercher refuge au Cameroun voisin. Par ailleurs, dans une vidéo en langue Haoussa publiée hier, le leader de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a revendiqué la responsabilité de l'enlèvement le 14 avril dernier des dizaines de jeunes filles d'un collège de Chibok dans l'état de Borno. « J'ai enlevé vos filles », dit Shekau, en menaçant de vendre ses otages. Les autorités nigériennes disent que quelques collégiennes ont réussi à échapper à leurs ravisseurs, mais on est toujours sans nouvelles de 276 autres.
À noter que selon le département d'État américain, il est probable que plusieurs de ces lycéennes enlevées par Boko Haram aient été emmenées hors du Nigeria vers des pays voisins.
En Centrafrique, notre confrère René Padoue de la radio protestante Voix de la Grâce est décédé hier. Il avait été grièvement blessé le 29 avril dernier dans l'attaque de son domicile. C'est le second journaliste tué en une semaine dans ce pays. Les précisions de Félix Yepassi Zembrou.
Le journaliste René Padoue est décédé hier à l'hôpital de Bangui où il avait été admis dans la nuit du 29 avril dernier. Il avait été attaqué dans la maison familiale par des individus armés qui ont abattu son frère aîné de plusieurs balles. Le confrère avait été poignardé après s'être fait tirer dessus. Le même jour, un autre journaliste avait également été agressé et avait lui aussi succombé à ses blessures. La veille, un jeune musulman du PK5, dernière enclave musulmane de la ville, avait été tué et son corps mutilé. Cet assassinat avait entraîné des représailles de jeunes musulmans du quartier qui ont attaqué plusieurs domiciles des quartiers chrétiens voisins du PK5. Des centaines de personnes ont fui leur maison pour regagner les sites de déplacés. Le Centrafrique a sombré dans le chaos entre mars 2013 et janvier 2014 avec une multiplication des exactions sur les populations civiles.
Le secrétaire d'État américain John Kerry a brandi la menace de sanctions et d'autres conséquences possibles si le gouvernement et les rebelles du Soudan du Sud ne s'engagent pas dans des discussions visant à mettre fin à près de 5 mois de guerre civile. Monsieur Kerry, qui était lundi dans la capitale angolaise, Luanda, dernière étape de sa tournée africaine, avait obtenu la semaine dernière l'engagement du président Salva Kiir à ses pourparlers. M. Kerry a estimé que le chef rebelle Riek Machar a une décision de principe à prendre dans la manière de procéder, ajoutant qu'il y aura des conséquences pour ceux qui bloquent ses efforts. Le reporter de la VOA, Scott Stearns, qui voyage avec John Kerry, a dit que Riek Machar semblait faire marche arrière après avoir initialement montré une certaine ouverture à des pourparlers lors d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain.
L'ancien chef de l'armée égyptienne et favori à la présidentielle Abdel Fattah al-Sissi a juré que s'il remportait l'élection, le groupe des frères musulmans déchus ne reviendrait pas au devant de la scène. Dans la première interview télévisée de sa campagne hier, le maréchal à la retraite a déclaré que Mohamed Morsi et sa confrérie étaient finis, selon ses termes. Des commentaires qui semblent être un rejet sans équivoque de toute réconciliation politique avec les frères musulmans, la force politique la plus puissante d'Égypte jusqu'au renversement du président Morsi.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a nommé le premier gouvernement de son quatrième mandat sans y intégrer l'opposition, comme le souhaitait le premier ministre Abdelmalek Sellal. Les principaux ministres conservent leur poste dans cette équipe de 35 membres, dont 7 femmes. Ramtane Lamamra reste aux affaires étrangères, Tayeb Belaïz à l'intérieur, tout comme Tayeb Lou à la justice.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis et Djibouti ont signé un nouveau bail de 10 ans pour la base militaire américaine à Caen-Limonier dans la Corne de l'Afrique. Un accord conclu hier à la Maison-Blanche entre le président Obama et le chef de l'État djiboutien. Voici un extrait du discours d'Ismaël Omar Goulet à la Maison-Blanche.
Je voudrais remercier le président Omaba d'être un partenaire stratégique avec Djibouti. Et je voudrais également insister que nos relations de partenariat stratégique concernent non seulement la lutte contre le terrorisme, la piraterie et les trafics humains dans notre région, mais aussi de la coopération et le soutien des États-Unis dans notre politique de développement sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation nationale et surtout la sécurité alimentaire. Et je voudrais aussi remercier le président de la vision et sa manière de voir le développement de l'Afrique en général. Et de notre région aussi. Le fait d'accueillir les forces américaines démontre aussi notre soutien à la paix internationale, surtout dans notre région.
C'était le président de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh. Et le président Barack Obama a déclaré que la traite des êtres humains demeurait une préoccupation pour Washington et il a souligné que les États-Unis s'engageraient avec Djibouti sur les questions des droits de l'homme. L'opposition djiboutienne a rejeté les résultats des législatives de 2013 et refusé de siéger au Parlement tout en cherchant l'intervention de l'Union africaine dans la crise politique. Elle affirme que ses membres sont arrêtés et harcelés par les forces de sécurité et dénonce la fermeture de médias indépendants. Le président Guelleh a dit à la Voix de l'Amérique qu'il n'était pas gêné par les revendications de l'opposition. Si l'on est arrêté, c'est pour une question criminelle. On passe au tribunal, on a droit à un avocat, on peut faire appel. Ce n'est pas de mon ressort, c'est fait conformément à la loi, a dit dans une interview à La Voix de l'Amérique le président de Djibouti.
Le commandant-chef des forces de l'OTAN, Philippe Breedlove, a estimé lundi que la Russie ne va pas envahir l'Ukraine, ajoutant que le Kremlin a d'autres moyens d'atteindre ses objectifs. Lors d'une conférence à Ottawa, le général américain a dit que, selon lui, le président russe Vladimir Poutine allait continuer de générer l'agitation, de discréditer le gouvernement ukrainien et de provoquer un mouvement séparatiste. Le chef de l'Alliance Atlantique pense que Moscou peut exercer une emprise sur l'est de l'Ukraine sans même y envoyer des troupes régulières. Il s'est dit certain que des forces spéciales russes sont en Ukraine, sans toutefois pouvoir confirmer si ce sont elles qui ont abattu 3 hélicoptères ukrainiens la semaine dernière.
L'administration Obama a dit qu'elle accordera au bureau de l'opposition syrienne à Washington et à New York le statut de mission diplomatique étrangère. Les responsables américains ont reconnu la coalition nationale syrienne comme représentant légitime du peuple syrien en décembre 2012, mais ces bureaux aux États-Unis étaient considérés comme bureaux de liaison informels jusqu'à lundi. Washington a également annoncé 27 millions de dollars supplémentaires d'aide non létale à l'opposition, ce qui représente un total de 287 millions d'aides américaines depuis le début du conflit, il y a 3 ans.
Le président palestinien Mahmoud Abbas et le chef du Hamas Khaled Meshal se sont rencontrés hier à Doha pour la première fois depuis la conclusion de l'accord de réconciliation. Au cours de la réunion qui s'est déroulée dans une atmosphère positive, les deux dirigeants palestiniens ont exprimé leur volonté sérieuse d'ouvrir une nouvelle page fondée sur le partenariat national, a indiqué dans un communiqué le mouvement du Hamas. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique avec vous, Nathalie Barge. Et nous retrouverons Anne dans un petit quart d'heure pour un rappel des titres. L'ANC est en passe de remporter les élections générales sud-africaines de demain en dépit des nombreuses allégations de corruption. Le président Jacob Zuma semble donc bien parti pour se succéder à lui-même. Des détails avec Issa Napon.
Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a été secoué par plusieurs scandales, dont celui de l'utilisation controversée d'environ 23 millions de dollars pour réfectionner la résidence privée du président Jacob Zuma en Kandla. Pourtant, le chef de l'État sud-africain a affiché sa confiance lors d'une conférence de presse tenue hier.
We think the ANC will win the elections.
Je pense que l'ANC va gagner ces élections massivement et non pas par, vous savez, à l'arraché.
Différents sondages au niveau local donnent en effet ce parti vainqueur avec 63% des votes. Le président sud-africain, qui a mis toutes ses forces dans le sprint final, a assuré ne rien craindre des accusations portées contre sa personne.
I'm not worried about Kandla. It's not my problem.
Je ne suis pas inquiet au sujet de Kandla. Ce n'est pas mon problème, encore moins celui du peuple pour lequel je bats campagne. Dans toutes les provinces où j'ai été, pas une seule personne n'a posé de questions à ce propos, que ce soit dans les réunions publiques ou dans les maisons où je suis allé. Je pense qu'il n'y a que vous qui en parliez, les médias et l'opposition. Le peuple ne s'en préoccupe pas.
Jacob Zuma a lié les réflexions tant décriées de sa résidence à un besoin de sécurité après une expérience d'attaque et de violence, notamment contre l'une de ses épouses.
Il y a eu des situations qui ont nécessité des mesures de sécurité, particulièrement à ma résidence. Ma maison a été brûlée à deux reprises pendant des violences. Deuxièmement, des criminels sont arrivés et ont violé mon épouse lorsque j'étais encore membre du conseil exécutif de l'ANC. Donc le problème de sécurité, Nkandla, était loin d'être de la théorie.
Ni le président Zuma, ni aucun de ses cadres n'a donné plus de détails quant aux incidents survenus dans cette résidence de Nkandla. Malgré les critiques récurrentes de sa gestion du pays et les millions de Sud-Africains qui manquent encore d'électricité et d'eau potable, la donne n'est pas prête de changer dans la nation arc-en-ciel. Comme chacune des élections générales post-apartheid depuis bientôt 20 ans, l'ANC s'apprête à conserver le pouvoir et Jacob Zuma à rempiler pour un nouveau mandat.
En République démocratique du Congo, la société civile du Nord Kivu se dit déçue de l'acquittement de la majorité des 39 militaires accusés des viols de masse de novembre 2012 à Minova, dans l'est du pays. Pour l'accusation spécifique de viol, la Cour militaire du Nord Kivu n'a condamné que trois d'entre eux, notamment un lieutenant-colonel qui a écopé de la prison à perpétuité. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de maître Omar Kavota, vice-président et porte-parole de la société civile du Nord Kivu.
Il est vrai qu'au niveau de la société civile, nous avions salué la volonté du gouvernement à lutter contre l'impunité, en livrant notamment ses officiers et ses hommes de troupes à la justice pour des faits de crimes de guerre, de viols, de pillages et autres exactions contre les civils à Minova. Mais il faut dire que par rapport au verdict rendu ce jour, nous nous trouvons déçus du fait que les officiers ont été épargnés des sanctions et ce sont les petits frères qui ont subi la rigueur de la loi. Ce verdict acquitte 13 officiers et condamne des hommes de rang, souvent les 25 qui ont été soit condamnés pour des peines d'élise à la peine de mort ou d'autres radiés des forces armées. Nous nous disons que nous attendions au-delà de ce qui a été prononcé comme verdict.
Quelles pourraient être les répercussions de ces verdicts selon vous?
Il s'observe que nombreuses victimes qui attendaient de ces procès de justice attendent longtemps et soient sacrifiés. Nous savons qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont été violées et qui attendaient réparation à travers cette procédure judiciaire, mais qui doivent aujourd'hui se trouver comme nous déçus parce que leurs bourreaux ont été, notamment dans l'ère des officiers libérés, et nous passons la plupart de ces victimes de vrais aller en appel pour trouver réparation et justice équitable parce qu'au regard de ce qui a été fait, nous réalisons que nous restons sur notre sol.
Maître Omar Kavota est porte-parole de la société civile au Nord Kivu.
La Voix de l'Amérique sur internet www.lavoixdelamerique.com.
L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme à propos de la poliomyélite. Pour arrêter la propagation du virus dans le monde, l'OMS préconise d'imposer des restrictions de voyage dans les pays infectés. Le point avec Jean-Roger Bion.
La poliomyélite est endémique dans 3 pays, l'Afghanistan, le Pakistan et le Nigeria, mais cette maladie invalidante a récemment fait sa réapparition dans 7 pays d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient où le mal était censé avoir été éradiqué. Il s'agit du Cameroun, de la Guinée équatoriale, de l'Éthiopie, de l'Irak, d'Israël, de la Somalie et de la Syrie. Une commission de l'OMS a mis en garde contre la propagation du virus sauvage, ce qui poserait un problème majeur de santé publique si elle n'est pas stoppée d'urgence. Bruce Aylward, directeur général adjoint de l'OMS.
La commission a souligné au directeur général que si la situation présente jusqu'en avril 2014 n'avait pas été décelée, elle aurait pu entraîner l'échec de l'éradication à l'échelle mondiale de l'une des maladies que l'on peut éviter par la vaccination.
Le Cameroun et la Syrie sont considérés comme les pays les plus susceptibles d'exporter le poliovirus sauvage en 2014. L'OMS recommande que tous les habitants et les visiteurs se fassent vacciner contre la polio entre 4 semaines et 12 mois précédant tout voyage international. Dr. Elward assume qu'une réponse internationale coordonnée est indispensable pour arrêter la propagation internationale de cette maladie avant la haute saison de transmission qui se situe en mai et en juin.
La commission a également souligné que les conséquences de la propagation internationale sont particulièrement aiguës aujourd'hui, compte tenu du grand nombre de pays fragiles, mais qui ont gravement compromis les services de vaccination de routine et où le risque d'infection de la poliomyélite est particulièrement élevé. Ces États auraient des difficultés énormes à mettre en place une réponse efficace s'ils se trouvaient à nouveau réinfectés.
La commission de l'OMS en charge de la polio va se réunir à nouveau dans 3 mois pour réévaluer la situation. Si leurs recommandations ne produisent pas l'effet désiré, les autorités sanitaires prévoient d'autres mesures plus strictes pour tenter d'arrêter la propagation du poliovirus.
Le rôle des médias dans une situation d'effervescence politique, tel a été le thème de la Journée internationale de la presse au Burkina Faso, un sujet qui s'inspire de l'actualité sociopolitique du pays divisé entre les pro- et anti-révisions de la Constitution qui permettrait un troisième mandat à Blaise Compaoré en 2015. Pour un tour d'horizon des médias burkinabés, Zoumana Wonogo a rencontré divers acteurs de la presse.
Quel est l'état des lieux de la liberté de la presse au Burkina? Voici la question que nous avons posée à Jean-Claude Méda. Il est le président de l'AJB, Association des journalistes du Burkina.
La situation de la liberté de la presse, à mon avis, est une situation relativement bonne. J'insiste sur le terme « relativement » parce que nous n'avons plus connu de journalistes assassinés et nous ne le souhaitons pas. Par contre, nous avons connu et nous connaissons des journalistes qui ont été attrait devant la justice. Et nous avons la situation des journalistes de la presse publique qui ont dénoncé l'immixtion grossière de la part du ministère en charge de l'information. Je pense que ces cas témoigne de la relativité de la liberté de la presse au niveau du Burkina.
À côté du thème international, ici au Faso, on a retenu celui portant sur le rôle des médias dans la situation d'effervescence politique. Le président des journalistes du Burkina, Jean-Claude Méda, nous explique les raisons.
Nous voulons amener les journalistes à être très vigilants pour éviter la manipulation parce que dans ce contexte-là d'effervescence politique, il y a des intérêts énormes en jeu. Les journalistes font l'objet d'une cour assidue et nous pensons que c'est le moment pour les journalistes de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à la corruption.
Ici au Faso, les rapports entre la justice et les médias sont assez difficiles. Suivant ce cas de Wenceslas Ilvoudou, ancien juge d'instruction de l'affaire Norbert Zongo sur les rapports presse-justice.
C'est normal puisque les plaintes nous sont déposées. Et donc tous les problèmes justement quand un journaliste doit répondre pour ce qu'il a fait, c'est nullement ailleurs qu'à la justice. Et c'est des plaintes généralement de citoyens qui sont offensés par des articles de presse. Et la loi donne justement tout coup de franche à la justice pour établir les faits. Mais complémentaire, seulement il faut que chacun puisse faire son travail dans les règles de l'art.
Avec les hommes détenus, les journalistes ont toujours maille à partir. Voici ce que nous a confié le capitaine William Kombari. Il est le directeur de la police judiciaire de la gendarmerie.
Chacun essaie de faire au mieux son travail et souvent il y a des couacs, mais nos rapports sont excellents. Et ce que je souhaite, c'est que chacun puisse jouir de ses droits. Si tant est que nous sommes dans l'état de droit et ça ne doit pas souffrir d'aucun doute là-dessus.
En bien ou en mal, le travail des journalistes burkinabés est regardé à la loupe par un observatoire national. Alors, nous avons saisi l'occasion pour demander au président de cette institution s'il y a un risque de dérapage à Radio 1000 Collines au Faso. Écoutons la réponse de Jean-Baptiste Ilvoudou, le président de l'OBM, Observatoire Burkinabé des médias.
Il ne faut pas se voiler la face pour dire que nous sommes différents. Nous sommes comme les autres. Et c'est pourquoi nous insistons sur le respect des normes d'éthique et de déontologie. Quelle que soit la période, que ce soit une période normale ou une période d'exception, il suffit seulement de respecter les règles d'éthique et de déontologie. Il faut être tenu à la responsabilité sociale, à l'obligation d'objectivité.
Et si on les respecte, ce qui s'est passé au Rwanda, Bill Collins, j'espère et je souhaite, ne se reproduise pas au Burkina Faso.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la voix de l'Amérique. À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Alors la Gambie a été suspendue par la CAF.
Oui, le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé hier de suspendre pour 2 ans la Fédération gambienne de football de toutes les compétitions. Une décision qui fait suite à l'utilisation de joueurs plus âgés lors du match comptant pour les éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations des moins de 20 ans.
Et le racisme sur le banc des accusés dans le football.
Un nouvel incident raciste a marqué dimanche le foot espagnol. Le milieu sénégalais de Levante, Pape Diop, dénonçant des cris de singe de la part de supporters de l'Atlético Madrid. Une semaine seulement après le jet d'une banane sur le Brésilien Dani Alves, l'UEFA a fermement condamné hier les récentes attitudes racistes de supporters en Espagne. Le président de la Fédération internationale de football en voyage au Cameroun, Sepp Blatter, s'est dit lui fâché de la persistance d'actes de racisme dans les stades.
En athlétisme, retour à la compétition de Rudisha retardé.
Absent depuis le mois de juin dernier pour une blessure au genou, David Rudisha devait reprendre à Doha ce vendredi, mais touché à un pied, le Kenyan ne sera finalement pas de la partie. C'est ce qu'a déclaré son entraîneur. Le recordman du monde et champion olympique en titre du 800 mètres pourrait faire son retour à la fin du mois de mai lors d'un meeting aux États-Unis. Enfin, je vous laisse donner les résultats de la nuit en NBA. Les playoffs se poursuivent dans le championnat de basket nord-américain.
Les Pacers ont perdu chez eux à Indianapolis contre les Wizards de Washington par 96-102. Et à Oklahoma City, les Thunder ont également perdu chez eux par 105-122 contre les Clippers de Los Angeles. Et après les sports, une petite page musicale avec Roger Muntou. Bonjour Roger.
Bonjour Nathalie. Le Garance Reggae Festival est parmi les plus grands festivals de reggae, dub, root et dancehall organisés en France. La 23e édition aura lieu le 23, 24, 25 et 26 juillet à Bagnols-sur-Cèze. L'artiste Billy Man sera là pour chanter.
Saga. Y'all aime ça me clean like the bill of hell. It's like a wrist of them ready for blow me. You know why? Because me ever, 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 never lean. Me ever clean. Me ever, ever, ever.
When me touch the street, me ever, never in a way you in a. Me ever clear, see a Gucci me in a. Me ever clear, see a Louis V dem ya. Me ever clear, think you seven when me drive. Me ever clear.
Le Garance Reggae Festival a dévoilé les premiers artistes confirmés pour l'année 2014. Benny Man, évidemment, Albo Rosy, Anthony B, Ken Beauté et le vétéran Errol Dunkley.
Cette année aussi, Nathalie, une rencontre inédite aura lieu sur la grande scène Mafia et Flux in Dub featuring Jashaka, le tout mixé par le sorcier anglais, comme on l'appelle, le sorcier anglais Adrien Sherwood. Également au programme Kanka et Vibronique, la vraie fiesta dancehall, Nathalie.
Beniman, Mi Eva Klin, merci beaucoup Roger.
Au revoir Nathalie.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h, temps universel dans le RM Show.
You shop a queen through clean a Manhattan. Albany me go. Where you pay things up? Where you 5 grand for one piece of something? Hey, some wanna know Jay and good girl. Them only know Macy's, them only know Saks Fifth Avenue. Some Christian Dior shirt in the name must have. You a ghost spot head daddy. When me did have. Boy, you a fearless, I come out with big bag. When me just me need my thing, no zigzag. Girl, them see me out the road, I go on bad. Me no wear price tag, some man think me never in a way you in a. Me ever clear, you see a Gucci me in a. Me ever clear, you see a Louis V dem ya. Me ever clear, think you seven when me drive. Me ever clear, me never in a way you in a. Me ever clear, in a me Dolce and Gabbana. Me ever clear, white skies when me in a. Me ever clear, think you seven when me drive. Me ever clear, me never late. When the dance all king talk about flossing thing. In a dance all thing, me a the flossing king. I bend zombie my heart, oh my woman. I'm by the Range Rover and the angels to swing. That's what I did talk about, what I'm still doing. A Phantom and Bentley man driving foreign. Me introduce NEC and the Red Bull thing. Why some boy have flasking it and a drink Heineken? Them can't stop me swagger, so them can't style me thing. I will force it a girl and go pretty browning. Who first the ghost and change mama living family in the 90s and pay top care. Me never in a way you in a. Me ever clear. You see a Gucci me in a. Me ever clear. You see a Louis V dem ya. Me ever clear. When me drive, me ever clear. Me never in a way you in a. Me ever clear. In a me Dolce and Gabbana. Me ever clear. White skies when me in a. Me ever clear. If you seven when me drive. Me ever clear. Me never late.
Oye, barakane to kane bi kane nukuru kuduri yango puniye. Bakani yendeliye, bibi kani yendeliye.
Dans la salle un écho, devant moi un micro. Dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés, écoutez donc c'est ok. Dans la salle un écho, devant moi un micro. Dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés, écoutez donc c'est ok. Mais papa, tu aurais dû voir aujourd'hui. Quelqu'un qui s'impose dans la vie.
Non, à elle.
Eux, ils m'en veulent à la mort. Sans toi, elle n'est pas belle. Est-ce ton sort? Prêtez le score. Sans toi, mon fort. Ici, rien n'est hors. Please, give me some more. J'ai mes démons. Où es-tu, ange? Rien n'est beau, rien n'est beau. Plus rien ne change. Dans mes souvenirs, je n'ai pas ton visage. Quel que soit le songe ou le mirage. Je perds la raison ou je pète les plombs. Derrière ma tête, je pense à
dans ta tête, c'est lui qui donne. Le feu qui brûle en toi et la musique. Il a sûrement voulu avoir un petit gars comme toi, comme toi, comme toi. Mais qu'est-ce qui sonne dans ta tête, c'est lui qui donne. Le feu qui brûle en toi et la musique qui résonne. Il a sûrement voulu avoir un petit gars comme toi, comme toi, comme
dans
toi.
Dans la salle toi. Un écho, devant moi un micro. Dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés. Écoutez donc c'est ok. Dans la salle un écho, devant moi un micro. Dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés. Écoutez donc c'est ok.
Don't stop, Frankie, Frankie, don't cry. Please God bless me. J'ai pas repère,
j'ai pas de père, je vais pas me taire, je vais tout faire sauter. Jusque là je sais que j'ai pu faire le minimum. Avec toi, j'atteindrai le summum. Ton esprit, mon kingdom. Ta culture pour ma réforme. Et réformer le puzzle éclaté. Néné Joseph, je t'ai donné un homonyme. Et ma vie s'illumine pour la haine. Voix, papa Maurice, où serais-je sans toi?
Et voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui, présenté par Nathalie Barge et Anne Albertson. Merci à toute la rédaction, chers auditeurs, bonne journée et à très bientôt sur La Voix de l'Amérique.